Frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette Église alors que nous sommes au début du temps de l'Avent. Qu'est-ce donc que le temps de l'Avent ? Beaucoup répondraient que le temps de l'Avent est ce temps qui nous prépare aux fêtes de la Nativité. De même que le carême nous prépare aux fêtes de Pâques, le temps de l'Avent serait seulement là pour nous préparer aux fêtes de la Nativité. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas pour autant juste. Bien sûr, le temps de l'Avent est un temps de pénitence, pour lequel il nous est demandé, comme pour le temps du carême, de jeûner, de prier et de faire l'aumône. De jeûner pour creuser en nous le désir de Dieu, la faim et la soif de sa parole, de ses enseignements, de sa communion. De recevoir le Seigneur lui-même qui vient nourrir nos âmes. Le temps de l'Avent est un temps également dans lequel nous devons prier. Nous avons entendu l'appel lancé par le Seigneur. Je le dis à tous, veillez. Lorsque le Seigneur déclare cela dans l'Évangile selon saint Marc, le Seigneur va bientôt offrir sa vie en sacrifice sur le bois de la croix. C'est un mot d'ordre et il précise, je ne vous le dis pas seulement à vous, apôtres. Je le dis à tous, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de tous les temps. Il nous faut veiller. Veiller dans la prière, c'est ce que le Seigneur a déclaré au jardin de Gethsémani. Ne pouvez-vous donc pas veiller une heure avec moi ? Mon âme est triste à en mourir. Et le Seigneur de nous exhorter, veillez et priez. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Ainsi donc, en ce temps de l'Avent, nous avons à prier. À prier pour tous ceux qui ne prient pas, qui ne prient plus, qui ne savent plus vraiment quel mot trouver pour s'adresser au bon Dieu. Nous avons à veiller dans la prière en portant l'espérance pour un monde qui ne sait plus en quoi il espère, pour tous ceux qui sont désespérés, voire même démunis sans savoir vers qui se tourner. Nous pensons à ces commerçants dont les inquiétudes doivent être bien grandes, à ces hôteliers de notre cité mariale de Lourdes, à toutes ces angoisses dans les familles pour la peur de perdre un emploi. Nous avons à porter cette espérance dans la prière. Nous avons également à beaucoup faire l'aumône. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous avons en ce temps de l'Avent à donner. À nous donner en premier lieu à Dieu, c'est-à-dire à nous abandonner à sa bienveillance. Et nous avons également à nous donner aux autres. Le double commandement de l'amour, celui qui nous ordonne d'aimer Dieu et qui nous renvoie à l'amour du prochain, sont bien des sentiments qui doivent caractériser tous les temps liturgiques, mais en particulier ces temps où nous devons être plus attentifs, où notre charité doit se faire plus inventive, plus attentive, même enfermée dans nos maisons. Nous pouvons toujours téléphoner à l'un ou l'autre. Nous pouvons même prier par téléphone. Nous pouvons recevoir la visite d'un prêtre et à travers lui celle du Seigneur dans la communion. Nous ne sommes pas orphelins. C'est bien le mot d'ordre du Seigneur lorsqu'il quitte la terre pour rejoindre la hauteur du ciel, ensuite de l'ascension, je ne vous laisse pas orphelin, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce temps de l'Avent est donc un temps, bien sûr, de préparation aux fêtes de la Nativité, une préparation spirituelle, mais ce n'est pas là seulement la réalité du temps de l'Avent. L'Avent veut dire ce qui doit advenir. De telle sorte que l'Avent ne peut pas nous placer vers un événement du passé. La naissance de notre Seigneur Jésus le Christ appartient à l'histoire. Il est né un jour du temps pour délivrer tous les temps du péché du mal, de tout ce qui nous éloigne du bon Dieu. Le temps de l'Avent, il nous dirige vers le retour du Christ. Voilà ce qui doit advenir. Notre vie chrétienne ne ressasse pas année liturgique après année liturgique des événements passés. Notre année liturgique, elle se fait forte de tout ce que le Seigneur a vécu par amour pour nous. Le Seigneur nous a permis de connaître véritablement qui est Dieu. Il nous a enseigné les mots même de sa prière. Il a institué pour nous chacun des sacrements. Sacrement des malades pour tous ceux que le Seigneur a guéris et est venu toucher et relever. Sacrement du mariage pour soutenir les époux dans leur amour mutuel et inconditionnel. Sacrement de l'ordre pour que les fidèles ne soient pas démunis de ces sacrements. Sacrement du baptême qui fait de nous les héritiers de Dieu et ses enfants bien-aimés. Sacrement de l'Eucharistie qui nous est ô combien cher, dans lequel nous recevons la présence réelle du Seigneur. Il est là, aimait à dire le curé d'Ars. Il est là, au plus présent de cette petite hostie pour venir nourrir nos âmes. Le Seigneur ne nous laisse pas ainsi. Il a même prévu de pardonner nos péchés en instaurant le sacrement de la confession. Tout cela, nous avons à le vivre au jour le jour, mais dans l'espérance de nous retrouver face à lui. Les Saintes Écritures pourraient se résumer en un seul désir. Quand est-ce donc, Seigneur, que je vous verrai face à face ? Notre vie chrétienne est ce cheminement ici-bas sur la terre où nous allons à la rencontre du Seigneur. Car nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Dans un élan d'amour infini, nous avons donc à nous abandonner pour que le Seigneur, nous l'avons entendu dans les lectures, nous façonne comme le potier. Il sait que nous sommes fragiles, que nous sommes faits d'argile et que l'argile se casse facilement. Mais l'argile peut également se réparer. Avec un peu d'eau, on refaçonne. Eh bien, voilà ce que nous sommes dans les bras de Dieu qui est notre Père. Nous sommes cette argile qui façonne par la grâce que nous recevons dans ces sacrements. Et nous avons alors à avancer humblement sous son regard, comme l'a fait tout au long de sa vie la bienheureuse Vierge Marie. Elle n'a pas tout compris lorsque l'ange est apparu. Mais elle avait foi en lui. Elle avait placé toute son espérance en lui. Et elle ne brûlait que d'amour pour Dieu et donc pour le prochain, puisque par elle, par son oui, voilà que le salut est entré en notre monde. Ainsi donc, le Seigneur résume tout ce que nous venons de voir ensemble, toute la tonalité du temps de l'Avent en nous disant « Veillez, que je ne vous trouve pas endormi. » Bien sûr qu'il faut dormir le soir, tout n'est pas à prendre au sens littéral, mais nous n'oublions pas que dans le psaume, le Seigneur nous dit « Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Nous avons toujours à porter en notre âme ce désir d'appartenir à Dieu. Et nous ne sommes pas simplement des individus, nous formons une communauté chrétienne. C'est tous ensemble que nous portons les intentions de ce monde. C'est pourquoi, dans la tradition de l'Église, nous disons que les chrétiens sont l'âme du monde. C'est vous qui, à travers votre prière toute simple en vos maisons, à travers ces chapelets récités, peut-être avec la radio et la grotte de Lourdes ou la télévision, vous qui avez assisté aux messes par la télévision ou par la radio, qui vous êtes efforcé de prier, vous avez porté notre pays, vous avez porté toutes ces intentions de prière vers le bon Dieu. Tout ce que vous faites du point de vue spirituel, même si pour notre monde cela ne compte pas, a beaucoup de prix pour Dieu, puisque le Seigneur nous invite à ne jamais juger notre prière, car il nous dit que nous serons bien surpris au ciel de voir les fruits de notre pauvre prière. La prière, c'est être uni au bon Dieu. Eh bien, voilà comment nous avons à veiller en ce temps de l'Avent. Certes, le monde peut nous inviter à désespérer. Le monde nous semble bien désuni. Et chacun, nous en souffrons à notre niveau, parce que cette même division du monde, elle peut gagner nos familles. Elle gagne souvent nos familles. Alors nous avons à prier et à veiller dans cette prière pour que le Seigneur, eh bien, puisse tous nous sauver. Ce temps de l'Avent qui nous tourne résolument vers son retour, eh bien, doit nous trouver vigilants dans la prière. Le Seigneur nous dit, attention, il peut venir au milieu de la nuit, à minuit, il peut venir au chant du coq aussi, comme au matin. Pourquoi saint Marc précise le chant du coq ? Parce que saint Marc est le disciple de l'apôtre Pierre. Et tout l'évangile que nous allons méditer en cette année liturgique sera l'évangile selon saint Marc, le disciple de l'apôtre Pierre. S'il précise le chant du coq, c'est parce qu'il n'oublie pas, nous sommes à l'heure de la Passion, que saint Pierre, le prince des apôtres, celui à qui il va remettre les clés du royaume des cieux, va le renier non pas une fois, mais trois fois. Eh bien, prions pour que chacun nous ayons une foi sincère en Dieu, une confiance inébranlable, et le chemin le plus sûr, c'est bien sûr la bienheureuse Vierge Marie. Nous la fêterons le 8 décembre dans le mystère de sa conception immaculée. Que vient-elle faire à Lourdes, si ce n'est nous rappeler à nos devoirs de pénitence, de conversion et de prière? Elle nous invite à aller à la source. Quelle est donc cette source qu'elle fait jaillir de la grotte de Massabielle, si ce n'est cette source d'eau qui jaillit du cœur du Christ au moment où on transperce son cœur sur le bois de la croix? Avec une confiance inébranlable en Notre-Dame, nous pourrons tout affronter. Puisse la bienheureuse Vierge Marie nous bénir en ce temps de l'Avent et nous accompagner, ainsi soit-il.